Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Il est bon d'entendre la voix de Dieu. Il est bon d'être à l'écoute de sa voix. Nous avons chanté « Entendre le son de ta voix ». Je ne sais pas si c'est là votre désir, si vous le désirez tous les jours. En tout cas, pour moi, c'est là mon désir. Et chaque fois que je me place devant Dieu, je veux entendre sa voix. Le matin, quand je me place devant le Seigneur, je dis « Seigneur, je veux entendre ta voix au travers de ta parole ». Seigneur, il faut que mon cœur soit ouvert pour que je puisse entendre et comprendre ce que tu as à me donner et à me dire. Si nous faisons une telle prière, le Seigneur agira dans notre vie, et dans notre marche avec Dieu, car ce que Dieu veut, c'est que chacun et chacune soit rempli de son esprit. Alléluia. Amen. Et Dieu a voulu que chacun et chacune puisse entendre la voix de Dieu. Mais pour cela, il faut avoir un cœur ouvert. Il faut être prêt à entendre la voix de Dieu et à désirer, à obéir à ce que Dieu nous demande et nous commande. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Dieu veut se tenir au milieu de nous, mais il veut se tenir avec force et bras étendus, comme dit la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut que chaque enfant de Dieu puisse entendre ce que Dieu a à lui dire et ce que Dieu veut lui enseigner. Ce matin, j'avais plusieurs pensées, j'avais plusieurs, je dirais, messages à vous apporter. Mais dans la nuit, je me suis réveillé, et plutôt dans la nuit de samedi, de vendredi à samedi, et là je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise à l'Église? Qu'est-ce qu'il faut que j'apporte à l'Église? Je ne veux pas que ça soit une pensée d'homme, mais je veux que ça soit la pensée de Dieu. Je voulais que Dieu puisse parler au travers de ma faible créature, afin que ça ne soit pas moi, mais que ce soit le Seigneur lui-même qui puisse parler au cœur de chacun d'entre vous. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Et le Seigneur a mis sur mon cœur une parole, et je vous demande d'ouvrir aujourd'hui la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 1er, et nous commencerons au verset 4. Comme je vous ai dit, il est bon d'entendre la voix de Dieu. Il est bon que nous soyons là encore ce matin, pour que Dieu puisse parler à nos cœurs. Alors il est dit au verset 4, Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Vous croyez à cette parole ? Moi, je crois à cette parole. Jésus a été élevé dans le ciel, et Jésus, il est celui qui est l'avocat auprès de Dieu pour chacun d'entre nous, pour moi comme pour vous. Il est celui qui l'intercède et qui regarde chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, et il regarde de quelle manière nous sommes devant lui et de quelle manière nous recevons la parole de Dieu. Je voudrais vous parler sur la promesse du Père. Vous savez, Jésus a dit dans Luc 24, 49, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Et nous l'avons lu encore dans les Actes des Apôtres. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, l'Ancien Testament mentionne sept fêtes de l'Éternel. Quatre de ces fêtes ont été remplacées par celles du Nouveau Testament. Les trois autres fêtes s'accompliront lors des événements à venir. La fête des trompettes sera l'enlèvement de l'Église, celle des expiations rétablies du grand pardon d'Israël, celle du tabernacle, le règne de Jésus sur la terre avec au milieu de son peuple. Alléluia. Mais voyons plus particulièrement ce matin la fête de la Pentecôte. Est-ce que vous aimez entendre ce mot, la Pentecôte ? Moi, j'aime entendre ce mot parce que ce mot a été pour moi, le jour où je me suis approché de Dieu, quelque chose de très fort. Je ne connaissais pas tellement la parole de Dieu. Je ne connaissais pas tellement le Seigneur. Mais quand je me suis approché de Dieu et que là, j'ai vu en lisant la parole de Dieu que Dieu baptisait du Saint-Esprit, alors j'ai dit, Seigneur, moi je veux te suivre, je veux faire ta volonté et je désire être baptisé dans le Saint-Esprit. Bien sûr que j'ai demandé pardon de mes péchés à Dieu. Bien sûr que le Seigneur a entendu ma prière. J'ai versé des larmes devant Dieu. Et Dieu a vu que je le suppliais de me pardonner, de me laver. Et frères et sœurs, je dois vous dire qu'en me tenant devant le Seigneur, et quand j'ai vu cette parole que Dieu est bien baptisé dans le Saint-Esprit, je n'ai fait qu'une chose, je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, tu baptises de l'Esprit. J'ai vu des frères, des sœurs qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Moi, Seigneur, je t'ai donné mon cœur, je veux te suivre, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Je me suis relevé, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit comme cela, mais je suis parti me coucher, c'était le soir, j'étais tout seul dans ma chambre, et je suis parti avec cette pensée, « Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. » Et dans la nuit, vers 3 heures du matin, réveillé par le Seigneur, j'ai été baptisé là, dans mon lit, baptisé du Saint-Esprit. Je parlais en langue, je louais le Seigneur et je disais « Quelle grâce !» Voyez-vous, en principe, quand on obéit au Seigneur, on passe par les eaux du baptême et après, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Mais moi, ça a été le contraire. J'ai été d'abord baptisé dans le Saint-Esprit et après, je suis passé par les eaux du baptême. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'avais cru au pardon de Dieu et je savais que Dieu était celui qui lavait mes péchés et qu'il les avait portés pour moi sur le bois de la croix, et que ses souffrances, eh bien, m'avaient délivré des ténèbres et du pouvoir du péché. Oui, la fête de Pentecôte, c'est celle que je voudrais vous apporter ce matin, car c'est une vraie fête. Elle devait avoir lieu, cette fête, 50 jours après Pâques. Afin d'ôter nos péchés, Jésus, notre Pâque, fut immolé. Et c'est là que j'ai compris que Dieu, eh bien, avait porté mes péchés et que je pouvais être baptisé dans le Saint-Esprit. L'expérience de la Pentecôte, je dirais, elle est la plus bénie et des expériences spirituelles et après la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, eh bien, est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle se trouve réalisée lorsque, par la foi, en la mort expiatoire de Jésus sur la croix, nous recevons le pardon de nos péchés. Par la nouvelle naissance, nous recevons et nous obtenons tout ce qui est nécessaire pour être reçus le jour de notre mort dans la maison du Père. Alléluia. Et là, je savais que j'étais prêt. Et là, je savais que je pouvais m'en aller d'un instant à l'autre. Je savais que j'étais prêt, à tel point que j'étais tellement dans la joie que dans l'usine où je travaillais, tous les gens se demandaient ce qui m'arrivait parce que j'étais transformé. Je n'agissais plus comme eux, je ne faisais plus comme eux, et ils étaient tous surpris, à tel point que dans cette usine, on m'appelait l'affranchi. J'étais réellement affranchi par le Seigneur. Alléluia. Et quand Dieu nous affranchit et que Dieu est passé par son esprit dans notre vie, nous sommes réellement transformés, régénérés et changés. Et c'est pourquoi, eh bien, le monde doit pouvoir le voir. Dans le milieu dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes dans le travail, les gens qui travaillent avec vous doivent s'en apercevoir. Si vous êtes à l'école, les gens qui sont avec vous à l'école doivent s'en apercevoir. Si vous êtes dans les collèges et les lycées, les gens qui sont avec vous, ils doivent s'en apercevoir. Et tant pis si on vous dit, n'est-ce pas, que vous êtes bizarre, que vous êtes drôle comme cela m'est arrivé, c'est parce que Jésus a bien habité mon cœur, alléluia. Et vous savez, dans l'usine, au lieu de siffler, parce que je sifflais, vous savez, en travaillant, je sifflais. Et au lieu de siffler des chansons du monde, comme j'avais l'habitude de le faire, je sifflais des cantiques. Alors les gens, ils étaient tous étonnés. Ils se demandaient, qu'est-ce que je sifflais? Et alors, ils sont venus me poser la question, et je leur ai dit, oui, je suis devenu chrétien. Alors là, ça les a complètement démolis. Je leur ai dit, vous savez, j'ai trouvé la joie. On me tendait des cigarettes, c'était fini. Vous ne comprenez pas? Pourquoi? Eh bien, parce que le Saint-Esprit était venu et me changer, me transformer. Il était venu brûler tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia! Et je me réjouissais. Les collègues, les amis, tous ceux de ma famille ne me comprenaient plus. Ils ne savaient plus ce qu'il fallait me dire. Mais oui, le Seigneur m'avait changé. Et alors à la maison, on me disait aussi, on te trouve bizarre. Et oui, j'étais bizarre parce que le Seigneur était entré dans mon cœur et je leur ai dit que j'avais la paix, la joie. Eux, ils se faisaient du souci, eux, ils se faisaient du chagrin, ils étaient toujours à penser ce que le lendemain leur apporterait. Moi, je ne pensais plus à tout cela, je comptais sur la grâce de Dieu qui m'était donnée jour après jour, heure après heure, minute après minute, et je savais que Dieu, eh bien, était avec moi, puisqu'il a dit dans sa parole, et qu'il marcherait avec moi tous les jours de ma vie. Alléluia. Et je l'ai cru, frères et sœurs. Oui, le don du Saint-Esprit, nous recevons le pouvoir de vivre une vie chrétienne victorieuse et puissante en glorifiant le divin Rédempteur. Et c'est comme cela que je glorifiais Dieu. Oui, le don du Saint-Esprit, eh bien, pouvait prouver aux apôtres que Jésus était à la droite du Père et que tout pouvoir sur la terre, eh bien, et dans les cieux, lui était conféré. Oui, alléluia, Dieu est tout-puissant. Pourquoi les apôtres, ils étaient avec cette assurance? Pourquoi ils étaient là, pleins de feu, pour pouvoir répandre la parole de Dieu, pour pouvoir répandre l'Évangile? Eh bien, c'est parce que eux, lorsqu'ils ont vu Jésus partir dans les cieux, ils sont partis dans cette chambre haute avec tous ceux qui ont voulu les suivre. Ils étaient environ 120. Et là, ils se sont mis à genoux et ils ont attendu ce que le Père avait promis, le baptême dans le Saint-Esprit. Et je pense que ce que nous devons savoir attendre, mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Vous qui ne l'avez pas été encore, vous qui avez donné votre cœur au Seigneur, il faut que vous sachiez attendre et persévérer dans ce domaine et avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, mon pasteur à l'époque, eh bien, quelque temps avant, je lui avais demandé de me baptiser, je voulais passer par les eaux du baptême. Et alors, le pasteur, il s'appelait Monsieur Roux. C'était un homme de Dieu extraordinaire. Je l'aimais et je disais que vraiment, eh bien, cet homme était un docteur de la parole de Dieu. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais que vous me baptisiez. Ah, mais tu sais, il faut que tu attendes un peu. Vous savez, autrefois, on ne baptisait pas les gens comme cela. Hein, il faut que tu attendes. J'ai attendu 15 jours, j'ai attendu 3 semaines, et j'ai attendu un mois, et puis je suis allé le retrouver, et je lui ai dit, écoutez, je voudrais passer par les eaux du baptême. Alors, Monsieur Roux, il m'a dit, mais je t'ai dit d'attendre. J'ai dit, Monsieur Roux, vous me refusez le baptême d'eau, mais je vais vous dire une chose, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Ah, là, c'est tout autre chose. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, je ne peux pas te refuser le baptême d'eau. Et je t'ai heureux d'offrir, n'est-ce pas, mon cœur là au Seigneur et de passer par les eaux du baptême. Et combien je me réjouissais avec les frères et les sœurs qui confessaient le nom du Seigneur dans ces eaux du baptême. Pour nous, le don du Saint-Esprit est le sceau de notre rédemption, le témoignage que Dieu vient habiter dans nos corps pour y faire sa demeure. Ce n'est pas précisément nous qui sommes revêtus du Saint-Esprit, c'est Dieu qui se revêt de notre chair pour faire son œuvre en nous et au travers de nous. Alléluia! Dieu veut se servir de chacun de nous. Dieu veut faire une œuvre au travers de chacun de nous. Il veut que chacun puisse être le témoin à la gloire de Dieu. Il veut que chacun puisse témoigner de sa gloire. Il veut que vous puissiez parler à vos amis, à vos parents, à vos enfants. Il veut que vous puissiez amener même des gens à écouter et entendre la parole de Dieu. Vous savez, j'ai amené plusieurs personnes à écouter la parole de Dieu. Souvent, on se dit que c'est difficile. Un jour, j'ai amené toute une famille. Ils sont venus et rien ne s'est passé. Mais je priais pour eux, je priais. Et vous savez que 7 ans plus tard, tous, ils sont venus au Seigneur. Alléluia! Dieu avait touché leur cœur, il les avait bouleversés. J'avais un ami qui était un ami que je fréquentais, qui était un ami gentil, c'est vrai. C'était un brave homme. Et puis ce garçon, je lui avais parlé du Seigneur, je lui avais dit quelques paroles. Et puis cet homme, il me regardait vivre. Et puis on était resté là. Et un jour, sans que je le sache, alors que je venais aux réunions à la rue Tamponnière à Toulouse à l'époque, ce monsieur m'a suivi. Moi, je ne le savais pas. Il me suivait. Il voulait voir si vraiment j'étais l'homme qui avait rendu le témoignage était vrai. Et il est venu. Il m'a suivi. Et quand je suis rentré dans la salle, je me rappelle, à côté de l'estrade, tourné vers l'entrée. Et j'ai vu cet homme rentrer. Et ce qu'il a fait, il a regardé pour voir si j'étais là. Il l'a vu. Et quand je suis sorti, il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Je savais que tu venais dans cette salle écouter la parole de Dieu sans que je lui ai vraiment, vraiment témoigné de venir. Lui le savait. Alléluia. Dieu le lui avait révélé. Et quelque temps après, lui aussi, il a donné son cœur au Seigneur et il est devenu un chrétien fidèle et il était dans la joie de servir le Seigneur. Ce garçon travaillait à la CNCF. Et quand il a quitté Toulouse, il est parti sur Grenoble. Et je sais que là-bas, eh bien, il a trouvé une épouse chrétienne. Il s'est marié et il était au service de Dieu dans l'Assemblée. Alléluia, quelle grâce de pouvoir être à l'Assemblée et de pouvoir, eh bien, servir le Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur travaille en nous, eh bien, à ce moment-là, nous sommes devenus, eh bien, le temple de Dieu. Son Esprit habite en nous. Alléluia. Et j'ai expérimenté cela, l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et vous savez, je sais que c'est une réalité et une vérité. À la Pentecôte, plusieurs phénomènes accompagnèrent la réception du Saint-Esprit et accomplirent la promesse de Dieu. Alléluia. Dans son entretien avec Nicodème, qu'est-ce que Jésus a dit? Eh bien, Jésus avait parlé du Saint-Esprit comme étant semblable à un vent qui soufflait où il voulait, comme il voulait. Et ce fut d'abord comme un vent impétueux. Et le don de Dieu se manifesta au milieu des apôtres. Et là, eh bien, ces gens-là reçurent le Saint-Esprit. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que dans le chapitre 2, il y avait là une telle onction, il y avait un bruit qui s'est produit, mais ce bruit ne venait pas des gens qui étaient dans la chambre haute, le bruit venait du ciel, alléluia. Et là, dans ce contexte, il y avait beaucoup de gens qui étaient à Jérusalem, des gens étrangers, et qui étaient là, et qui a parlé de différentes langues, et ces gens, au bruit, ils sont accourus, ils sont venus voir ce bruit d'où ça venait. Et là, ils ont entendu des gens qui parlaient dans des langues, et ces gens ont reconnu et qu'ils parlaient leur langue. Ils les entendaient parler, et chacun dans leur propre langue nous dit la parole de Dieu. Je vous laisse le soin de lire dans le chapitre 2. Vous verrez combien c'est glorieux. Et cela, je l'ai expérimenté aussi. Un jour, alors que j'étais dans l'assemblée, comme ce matin, le Seigneur a permis que je puisse donner un don spirituel en langue, comme cela quelquefois m'arrive lorsque l'Esprit de Dieu me saisit. Et là, il y avait bien sûr le culte, et j'ai donné mon don en langue, et puis il y a eu l'interprétation. Cette interprétation, elle a été donnée dans le sens du parler en langue qui avait été donné. Et voilà qu'à la sortie, comme d'habitude, je me tenais devant la porte pour saluer les gens. Et puis il y a une personne qui vient me trouver en me disant « Monsieur, est-ce que vous parlez l'allemand ?» Je lui dis « Non, je ne parle pas l'allemand. Je ne connais pas l'allemand du tout, à part que je connaisse le mot « Arbeit ».« Arbeit », ça veut dire « travail hein », parce que quand j'étais petit, eh bien quand il y avait des hostilités en France et que les prisonniers allemands étaient là, eh bien j'allais les côtoyer et je les entendais quand ils disaient qu'il fallait aller au travail, Arbeit. Bon, je savais ce que ça voulait dire. Mais je ne savais pas du tout que j'avais parlé allemand, je vous le dis franchement. Et alors je lui ai demandé à cette personne, pourquoi vous me posez cette question ? Et elle me dit, mais vous savez, vous avez parlé allemand et vous avez dit telle et telle et telle chose en allemand. Moi, je ne connais pas l'allemand, mais Dieu, lui, connaît toutes les langues. Amen. Alléluia. Et s'il veut que vous parliez allemand, vous parlerez allemand quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. S'il veut que vous parliez en russe, vous parlerez en russe. S'il veut que vous parliez en arabe, vous parlerez en arabe. S'il veut que vous parliez, eh bien, le langage de Johnson, eh bien, au Burundi, vous parlerez comme eux. Vous ne comprendrez pas, mais dans ces langages, vous dites des mystères et des merveilles à la gloire et à la louange de Dieu. C'est tout ce que vous pouvez savoir, et c'est magnifique, car Dieu se sert au travers de ces moments, eh bien, de parler à des cœurs, à des âmes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Oui, dans son entretien, Nicodème, eh bien, a entendu ces paroles. Jean-Baptiste avait annoncé que Jésus baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Dans Matthieu 3, 11, des langues, il est dit, quand les apôtres se sont réunis avec les 120, ils étaient là, des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ça serait extraordinaire. Si moi, depuis l'estrade ce matin, je voyais des langues de feu se poser sur chacun de vous, car rien n'est impossible à Dieu, comme cela est arrivé, et que le Seigneur puisse vous baptiser les uns et les autres du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous sommes plongés dans un feu, et c'est un miracle. Alléluia! Béni soit le Seigneur, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un miracle. J'ai expérimenté cela. Notre langue, qui autrefois était utilisée à blasphémer ou à parler mal, tout à coup saisie par le Saint-Esprit, se met à glorifier Dieu et à dire des merveilles dans une langue que vous ne comprenez pas. Mais c'est extraordinaire. Je me souviens, quand je me suis approché de Dieu, que je suis venu dans un culte, j'ai entendu des gens qui parlaient en langue et je ne comprenais pas, mais je voyais que ces gens étaient vraiment heureux. Ils étaient dans une joie extraordinaire. Alors moi, je voulais être comme eux. Je disais, Seigneur, tu vas m'accorder cela. Je le désire de tout mon cœur. Oui, nous glorifions Dieu quand nous parlons en langue. Certains nous ont reproché de ne pas avoir ces langues de feu, mais seulement le signe du parler en langue. Mais cependant, ils ignorent qu'au commencement du XXe siècle, quelques serviteurs de Dieu reçurent cette grâce. Et ça devait être extraordinaire. Entre autres, je pense au témoignage que M. Scott nous a donné au sujet du pasteur Barat. Je ne sais pas si M. Olé en a entendu parler. Mais cet homme, eh bien, il était pasteur méthodiste. Il n'avait jamais, eh bien, essayé de se mettre devant Dieu et de recevoir à l'époque le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il était parti, cet homme, M. Barat, le pasteur Barat, il était allé en Amérique pour recueillir des fonds en faveur de son église. Mais il a reçu plus que cela. Alléluia. Cet homme, on lui a dit, vous savez, dans une petite rue là-bas, à New York, ça se passait. Dans cette petite rue là-bas, il y a une église. Ils ne sont pas très nombreux, mais il se passe des choses extraordinaires. Alors cet homme, curieux, il a dit, je vais aller voir. Et il est allé avec d'autres. Et quand ils sont arrivés là, ils ont vu tout le monde à genoux. Et ils se sont mis eux aussi à genoux, puisqu'il n'était pas tout seul, il était avec d'autres. Et quand ils se sont mis à genoux, ils ont prié le Seigneur avec eux, ils glorifiaient Dieu. Et tout à coup, sur chacun d'eux, une langue de feu s'est posée et ils ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit. Cet homme qui était méthodiste, eh bien, il a été rempli de la puissance en agon. Il fut l'instrument de Dieu pour apporter le message de la Pentecôte en Norvège, en Suède, en Finlande, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons été les bénéficiaires de cette bénédiction au travers du ministère de M. Scott. Alléluia, parce que M. Scott connaissait bien ce frère, M. Barat. Et c'est au travers de son ministère que M. Scott, eh bien, a pu aussi être rempli du Saint-Esprit. Et quand il est venu en France, eh bien, croyez-moi, il n'était pas tout seul. Il avait le Saint-Esprit avec lui et le Seigneur Jésus à ses côtés. Alléluia! Et pourquoi il y a eu toutes ces assemblées ouvertes? D'abord au Havre, après, ça a été à Marseille, ça a été à Toulouse, ça a été à Paris, ça a été un peu partout dans toute la France. Monsieur Scott était avec le Seigneur Jésus, ou le Seigneur Jésus était avec Monsieur Scott et le Saint-Esprit, et il pouvait ouvrir des assemblées, et Dieu le remplissait de son esprit, alléluia, et il pouvait prêcher dans son langage, eh bien, à moitié anglais, à moitié français. C'était pas évident quelquefois de le comprendre. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune homme, eh bien, je me disais, c'est extraordinaire. Les gens se convertissaient, les gens donnaient leur cœur au Seigneur avec un langage si difficile et parfois incompréhensible, mais le Saint-Esprit agissait au travers de lui et on voyait des vies sauvées, des miracles et des prodiges qui se réalisaient. J'ai vu des gens, eh bien, venir dans nos assemblées, guéris là, sur leurs chaises, sans venir même à l'imposition de main, de tellement que la salle, elle était sous l'empreinte du Saint-Esprit. Des gens, eh bien, repartaient, délivrés, guéris et sauvés. Alléluia, quelle grâce! Oui, le Seigneur est un Dieu tout-puissant. Et cet homme, M. Barat, eh bien, a ouvert plusieurs assemblées dans plusieurs villes, comme M. Scott l'a fait en France. Le signe de la présence du Saint-Esprit tellement discuté est celui du parler en langue, et qui est pourtant promis par le Seigneur Jésus dans Marc chapitre 16 et verset 17. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, est-ce que vous désirez parler de nouvelles langues? Vous savez, je n'ai jamais été trop, eh bien, à l'école supérieure. Et quand je me mets devant le Seigneur. Je suis en communion avec lui et tout à coup le Saint-Esprit me saisit et je parle en langue et je le loue de tout mon cœur. Il faut que chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme et qui a donné son cœur au Seigneur, eh bien, puisse faire cette expérience. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, il faut vous tenir devant le Seigneur. Il faut chercher sa présence. Il faut que vous restiez là comme ces 120. Eux, vous voyez, ils ont attendu, eh bien, plusieurs jours. Mais moi, quand je me suis mis devant le Seigneur, je n'ai pas attendu plusieurs jours. Le jour même où j'y ai demandé le baptême dans l'Esprit, j'ai été baptisé dans la nuit. Ça a été extraordinaire, à tel point que le matin, je me disais, bon, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, j'espère que tu n'as pas perdu ta langue maternelle. Hein? Alléluia! Et je suis heureux de pouvoir, eh bien, aller à mon travail, rempli du Saint-Esprit et plein de feu. Oui, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas réservé à quelques personnes seulement, mais à tous, alléluia, qui que vous soyez, à condition, bien sûr, que vous ne viviez plus dans le péché et que vous ayez demandé pardon à Dieu et que vous ne viviez plus, eh bien, dans ce monde et qui est un monde, eh bien, corrompu. Oui, si vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous baptisera du Saint-Esprit, j'en suis convaincu. Alléluia. Oui, le Seigneur, eh bien, a dit, n'est-ce pas, au travers de l'apôtre Pierre, dans Actes 2, 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Alors, mes frères et mes sœurs, il faut que chacun d'entre vous, eh bien, vous puissiez vous tenir devant la face de Dieu et là, demander le baptême du Saint-Esprit. Je vous assure que si vous le faites, eh bien, le Seigneur vous exaucera. Et si aujourd'hui, tous ceux qui sont là, tout ce monde et qui est devant moi ce matin, eh bien, était baptisé du Saint-Esprit, ça serait extraordinaire. Je pense, eh bien, qu'il y aurait quelque chose de magnifique qui se passerait au milieu de nous. Pourquoi? Eh bien, parce que nous croyons à la parole de Dieu et que la parole de Dieu se confirme en recevant, eh bien, ce que Dieu nous donne et nous accorde. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, c'est la question que je vous pose, et que vous désirez être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut croire à ce que dit Jésus. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez à ce que Jésus a dit? Alléluia! Moi, je le crois, dans Marc 16 et verset 17, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, que Dieu soit glorifié. Alors je dois vous dire quand même quelque chose. Vous savez, quand je travaillais dans les usines. Et à un moment donné, vous en avez entendu parler, dans une usine ici à Toulouse, et aujourd'hui elle n'existe plus. On faisait des bombes pour tuer les gens, des bombes chimiques. Et c'est là, un jour, mon entreprise eh bien, avait un chantier. Et il fallait renouveler certaines choses dans cette usine. Et il y avait des box qu'on appelait aussi grandes que cette salle. Et là-dedans, vous ne pouviez pas rentrer sans avoir autorisation, car c'était très, très, très dangereux. Et dans cette usine, Eh bien, d'abord, les portes, elles étaient, je dois vous le dire, fermées automatiquement, à air comprimé. Il fallait avoir, vous savez, eh bien, un code pour entrer, tout ce qui s'ensuit. Nous, eh bien, on nous avait dit, vous pouvez rentrer dans ces box. Il a été désinfecté parce qu'on ne pouvait pas rentrer sans cela. Il a été nettoyé, ça a été lavé, ça a été, eh bien, passé tout au Karcher, enfin bref. Et nous étions en train de travailler avec des collègues, et puis moi je me trouvais sous un espèce de récipient qui devait contenir à peu près 100 litres, et sous ce récipient, il y avait une vanne, et cette vanne, elle fuyait. Alors vous savez, ces bombes chimiques, ce n'est plus un éclat qui vous tue. Quand la bombe, eh bien, elle est lancée, elle éclate en l'air, et le liquide, il tombe en pluie. C'est une goutte qui vous tombe sur la main ou sur le visage qui vous tue. Et si vous n'en êtes pas sûr, parce qu'il y avait du contrepoison, et si vous n'en êtes pas sûr, mais il faut en être sûr. Alors on vous injecte un produit pour ne pas que vous soyez empoisonné. Eh bien, moi j'ai travaillé dans cette usine, et tout à coup, avec un collègue, on était en train de démonter certaines tuyauteries, et puis à les refaire, et je vous dis, il n'y avait qu'un produit qui tenait et qui résistait à ce produit-là. Je vais vous dire ce que c'était. C'était les tuyauteries en argent. L'argent résistait à cela. L'inox, la ferraille et tout ce que vous voudrez, ça se perçait comme rien n'était. Mais l'argent, eh bien, ça résistait. Et nous étions en train de démonter tout à coup. Une goutte m'est tombée sur la main. Je vous assure, j'étais pas joyeux. Hein. Alors vite, je l'ai dit à l'ingénieur qui était là. On m'a amené à l'infirmerie. Et à l'infirmerie, eh bien, ils étaient là tous. Et vous êtes sûr que... Mais moi, j'ai dit, écoutez, vous êtes dans l'usine. Faites analyser votre produit. Et là, eh bien, ils ont fait analyser le produit. Le produit, c'était du poison. Mais moi, alléluia, j'ai été gardé par le Seigneur. Parce que le temps qu'on m'a amené à l'infirmerie, je pouvais être mort. Mais Dieu m'a gardé. Voyez-vous, quand on croit à la parole de Dieu, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, mais ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous croyez à cette parole? Moi, j'y crois de tout mon cœur, car je l'ai expérimenté. Le grand besoin de l'Église au XXe siècle, c'est que chaque enfant de Dieu soit rempli du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, car seulement ainsi, elle pourra faire face aux attaques du diable et à ces persécutions qui viennent dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et même de pasteurs, je le dis avec beaucoup de tristesse, eh bien parce que et dans leur cœur, ils ont laissé une brèche ouverte qui s'est faite. Eh bien, beaucoup, beaucoup sont tombés. Quel dommage. Quel dommage. C'est un malheur. Parce que on ne met pas la main à la charrue et on ne regarde pas derrière. Parce que il est dit que lorsqu'on met la main à la charrue et qu'on regarde en arrière, on n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin de nous sanctifier, de nous purifier et de nous placer devant la face de Dieu, afin que nous puissions eh bien, être eh bien, des serviteurs et des servantes à la gloire de Dieu, et à la louange de Dieu. Voulez-vous l'être ? Moi, je le veux l'être. Dieu soit glorifié. Oui, faisons attention dans nos églises. Beaucoup de choses mondaines rentrent, mais faisons attention dans notre église, et bien que rien de ces choses ne rentre, et obéissons à la parole de Dieu. Voyez et écoutez ce que dit Jérémie. Je terminerai par deux versets encore. Jérémie, dans le chapitre 2, au verset 13, « Ne le cherchez pas, je vous le lis, marquez-le si vous voulez, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, où allez-vous boire, mes amis ? Vous allez boire aux choses du monde ? Vous allez vous assoiffer dans les choses du monde ? Vous savez, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, tiens-moi loin des choses de ce monde qui nous apportent que tristesse, angoisse et douleur. Moi, je veux rester en ta présence. Garde-moi, Seigneur, garde-moi. » Et nous devons faire une telle prière. Je crois que la vie d'un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu est de marcher dans la voie sainte et pure. Je le désire, vous le désirez de tout mon cœur. Dans Éphésiens, et si je me souviens maintenant, je crois que M. Gros en a parlé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dimanche dernier, dans Éphésiens 5, 18, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et moi je dis ainsi, chaque enfant de Dieu pourra être debout pour l'avènement de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, eh bien, frères et sœurs, si le monde et ses attraits vous ont attiré jusqu'à ce jour, eh bien, dites au monde non, mais dites oui au Seigneur, et dites-lui, Seigneur, je veux te suivre dans les bons, comme dans les mauvais jours, comme nous avons vu, entendu ce matin au travers des prophéties que Dieu nous a données au travers de frères et de sœurs. Dieu soit loué pour sa grâce. Dieu soit béni pour sa patience à l'égard de chacun de nous. Dieu soit loué parce qu'il veut que nous marchions les uns et les autres dans la foi et pour vivre une véritable vie chrétienne jusqu'à la fin de nos jours. Soyons fermes et soyons solides afin que nous prenions eh bien, toute la parole de Dieu pour nous, dans notre cœur et notre vie, que le Seigneur soit béni. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons parce que c'est vrai. Tu veux nous remplir les uns et les autres de ton Saint-Esprit. Tu veux nous encourager, tu veux nous fortifier. Tu veux, Seigneur, faire en sorte que chacun puisse aller de l'avant et que personne, lorsque tu reviendras, ne soit délaissé sur cette terre. Nous voulons, Seigneur, partir avec toi. Je veux partir avec toi. Seigneur, nous voulons être dans ce ciel de gloire. Seigneur, et aller, Seigneur, au Dieu avec toi et à la place que tu nous réserves. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni pour ta parole et que ton nom soit béni pour ton esprit qui nous parle, qui nous avertit, et qui nous donne, Seigneur, d'aller de l'avant. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.